et la terre.
J'espère que tout le monde a eu une bonne nuit, ceux qui viennent de loin, ceux qui viennent de très loin, même de la Hollande, de la Haye, ceux qui viennent de plus près. Une nuit récupératrice, nous avons bien commencé la journée, je crois, avec les Laudes, avec aussi, disons, le contexte local, c'est qu'une des sœurs vient de mourir, a été enterrée hier, sœur Dominique, et donc on a eu déjà ce matin la liturgie des défunts et à l'Eucharistie encore une messe pour les défunts. Ça nous branche un peu sur ce qui se vit ici directement à Dougne et à Ancacat. Entrons maintenant directement dans ce qui fait le projet de ce week-end. Donc John Main, qui est notre fondateur et qui nous propose une méthode de méditation, est un homme ancré dans une tradition et ça se repère à tous les tournants dès que nous lisons ses écrits ou que nous écoutons même les cassettes. Bénédictin, il était habitué, outre à la méditation, à une fréquentation des Écritures, à une lectio divine quotidienne. Il était habitué et encadré par une vie liturgique, comme on la voit ici, une prière matinale toujours laudative et enchantée, une prière du soir qui rend grâce, parfois des veillées nocturnes, une Eucharistie quotidienne, ça faisait partie de sa respiration. Et vivait dans une communauté avec une sensibilité alerte pour tout ce qui se passe dans le monde et des engagements concrets. Il a été directeur d'école, il a vécu énormément de choses, disons, tant en Angleterre qu'aux États-Unis et au Canada. Il possède l'art d'être en touche directe avec la vie par l'hospitalité. On constate constamment une réflexion avertie sur la culture ambiante dans ce qu'il écrit, et c'est le fruit d'une lectio divina plus poussée. Ça veut dire qu'on ne pratique pas la méditation silencieuse coupée de cet horizon de sens. Du moins, lui ne l'a pas fait. Alors, durant ce week-end, j'aimerais essayer de montrer comment résumer assez simplement ce art plus complexe qui en vient à embrasser toute l'existence et illustrer par quelques pratiques utiles et complémentaires ce art de vivre. Dans cette première conférence, j'aimerais exposer simplement le système, disons, articulé des trois colonnes du monde d'après un dicton, une maxime qui vient des Juifs. C'est la tradition juive qui nous a transmis ça. La tradition juive possède également un petit recueil de 120 à peu près apophthegmes, ou paroles fortes des sages. Parfois c'est édité en français sous le titre « Sentence des pères ». En hébreu c'est « Pirkei Avot ». Pirkei, proverbe, pensée, Avot des pères. C'est un petit texte, pas très long, qui a été rédigé aux environs de l'année 200 de notre ère, et édité dans la Mishnah. Mais ce sont parfois des pensées qui datent de 2, 3, 4 siècles. Et en tête, disons à la deuxième place, on a l'apophthegme de Siméon le Juste, dont parle aussi la Bible. Donc dans Ben Sira, vous avez un portrait de grand prêtre Siméon. Et c'est autour de 200. Le chapitre 50, c'est un des grands portraits d'un prêtre qui célèbre la liturgie de Kippour. Nous avons fait très très peu de textes sur la liturgie de Kippour parce que le temple a été détruit en 70 et définitivement détruit en 135 et donc on n'a plus de traces de cette liturgie-là. Mais Ben Sira nous raconte au chapitre 50 au nom de Simon ou Siméon qui est appelé le Juste. Et ce sage, ce prêtre, ce bonhomme qui avait vraiment de l'autorité dans sa génération, a dit que le monde repose sur trois colonnes. Intéressant déjà. civilisation, mais l'universel, repose sur trois colonnes. Première colonne, étude, l'étude de la Torah. Deuxième colonne, le culte. Avoda, ça veut dire le service cultuel, le sacrifice, tout l'axe de la prière. Troisième, les œuvres de miséricorde. La tradition juive m'a aidé à comprendre cette maxime de maître, comparément avec Assis et Gilles Bernheim, chez qui j'ai été très souvent. Et donc, lentement, j'ai découvert qu'il s'agit d'une clé. Il s'agit d'un code fort intéressant. Déjà, la première chose, c'est que, comme je vous disais, le monde repose sur trois colonnes, et non pas le judaïsme. C'est l'universel. Et donc le souci de Siméon, même comme grand prêtre à Jérusalem, c'est encore l'universel. Et c'est très présent dans la tradition des prêtres. Par exemple, on fait des sacrifices également pour les païens, pour l'équilibre du monde. Donc les païens ont détruit notre temple, ils ne savent pas ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes, car ce temple priait pour eux. Voilà ce que dit la tradition. Et tel jour, et tel sacrifice, et tel bœuf étaient sacrifiés pour les païens, et pour la bonne entente, et donc pour la paix du monde. Mais l'universel repose sur le particulier. Qu'est-ce que c'est que l'étude de la Torah? C'est la tradition juive qui va me l'apprendre. C'est les traditions particulières qui vont m'y exercer. Qu'est-ce que c'est que le culte? C'est la tradition particulière qui va me l'apprendre. Qu'est-ce que sont les œuvres de miséricorde? Je dois l'apprendre. Dans un écolage, dans une tradition. Donc il y a une première profondeur dans cette maxime, c'est que l'universel repose sur le particulier. C'est en allant jusqu'au bout de ma tradition que je soutiens l'universel. Donc je ne dois pas effacer tout le particulier de ma tradition pour être universel, je dois aller jusqu'au bout du particulier. Et à ce moment-là, j'obtiens la paix universelle. Si je suis un demi-jésuite, un demi-dominicain et un peu bénédictin, mais pas vraiment bénédictin, mais pas vraiment jésuite, mais pas vraiment dominicain, ça n'aide personne. Si je suis jusqu'au bout des ongles dans la tradition monastique, à ce moment-là, j'aide le monde à être ce qu'il est. Voilà la dialectique, voilà la chose curieuse, et ça donne déjà à penser. Je ne dois pas vouloir être tout pour vouloir être universel. Je dois entrer pleinement dans ce qui m'a été transmis, et grâce à ça, je vais découvrir des portes qui s'ouvrent sur l'universel et je vais l'établir. Donc le monde repose, s'établit. Amad, en hébreu, ça veut dire tient debout sur trois colonnes. La deuxième idée importante de, cette massif, c'est qu'il s'agit de trois, non pas de deux et non pas de une. Alors il y a toujours un peu la tentation de vouloir quand même résumer, réduire au moins deux à trois, de trois à deux, et parfois même de faire un espèce de monisme, comme dans le monde monastique par exemple, en Orient. L'étude c'est sans importance, les œuvres c'est sans importance. Pour nous, moines, la chose importante, notre charisme c'est la prière. Et on construit le monde sur une colonne. Ça ne tient pas. C'est évidemment une dialectique dès qu'il y a trois. C'est un pas de danse. Une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois. On est tout le temps obligé d'écouter l'autre. On est tout le temps obligé d'intégrer d'autres dimensions que seulement celles que nous privilégions. Et donc la prière elle-même doit s'ouvrir aux œuvres de miséricorde, doit s'ouvrir à l'étude. Si elle n'est que prière, elle va tôt ou tard s'écrouler. Les rabbins insistent beaucoup là-dessus, n'essayez pas de réduire une colonne à l'autre. Parfois, quand on interroge les gens, c'est quoi être chrétien? C'est être bon pour son prochain. Hein? C'est remarquable, on sera jugé là-dessus. Et sur rien d'autre, ça c'est vrai. Saint-Jean de la Croix répète ça. Et c'est une dimension, c'est peut-être le fruit mûr. Mais si c'est un fruit mûr, il y a un processus qui précède. Et qu'est-ce qu'il en est de ce processus? Et parfois, en réduisant, disons, finalement, même cette charité s'étiole. Saint Matthieu parle d'une charité qui se refroidit. Et donc, l'originalité de la formule, c'est de nous situer dans le monde d'une façon ternaire, une triade, une dialectique et non pas polaire, par exemple, où à ce moment-là, on est tout le temps divisé. Les rabbins ajoutent encore un élément qui vaut la peine d'être écouté. Ils disent, mais d'abord l'étude, et puis la prière, et enfin l'action. D'abord la lucidité de l'étude, bien comprendre les choses. Commencer sa journée avec un moment de lucidité, un moment d'écoute de la parole, où cette parole répand sa lumière. Et puis j'entre dans la prière. Et ils disent, ne sautez pas la prière, ne sautez pas cet axe central, silencieux, ouvert, ne devenez pas des terroristes de l'action. Vous avez compris quelque chose, vous la mettez en pratique. Vous êtes passé directement de la première à la troisième. Et qu'est-ce qu'il en est de la seconde? Et ils nous disent, la Torah, c'est 5 livres. Mais vous sautez ceux du centre. Le Lévitique, ça ne vous intéresse pas. Les nombres, ça vous ennuie. Et vous passez directement au Deutéronome, qui est la loi de la pratique. Alors que Genèse et Exode, c'est la révélation. Et puis, vous allez directement en terre promise pour pratiquer. Et tout ce qu'il y a là au milieu, la mise en place du sanctuaire, et tous ses rites, et toute sa disposition sacerdotale, pour la sauter, c'est la colonne centrale que vous sautez. Donc, très important, partir de la lumière. Même quand vous méditez, on n'entre pas à nu et à vide dans la méditation. Il est bon d'avoir lu un morceau d'écriture. Écoutez John Lane, presque toujours il y a un fil. Et ce fil est accroché à une citation de Saint Paul, de Saint Jean. Mais presque toujours. Et quand il arrive au bout, il retourne sur son point de départ, où il éclaire pleinement ce qui en fait était son point de départ secret. Mais il y a toujours une parole de Dieu derrière sa méditation et son invitation à méditer. Donc même si on a seulement cette espèce de parole ouverte, ce machal, ce mantra, ma-ra-na-ta, donc il ne faut pas investir des associations, il faut laisser résonner ça comme une parole ouverte. Même si on n'a que cela, avant ça, en deçà de ça, on est situé par une parole de Dieu pour aujourd'hui. Que ce soit l'Évangile, que ce soit le texte de Saint-Pierre, que ce soit l'Écriture qu'on a lue, on verra cet après-midi quelle proportion on peut donner à ce art de la lecture. Comment l'entreprendre et comment le situer dans l'ensemble de notre projet de vie. Mais en réalité, les rabbins le disent, d'abord, ce moment de lucidité, et puis entrer dans le rite, dans la pratique, dans la prière, dans le silence, dans la méditation. Et de là, que ces deux premiers, on passe sereinement et en même temps solidement à l'action. Il y a eu dans la tradition juive une crise énorme et violente entre juifs, et qui n'est pas tout à fait finie aujourd'hui. Et c'est quand est né le chassidisme. Le chassidisme, c'est des pieux, chassid, ça veut dire un pieux, c'est des pieux qui, derrière un tout grand maître, le Baal Shem Tov, le maître du bon nom, un espèce de thaumaturge, disons au milieu du XVIIe siècle, pendant 10 ans, il n'a pas régné tellement longtemps, parce qu'il est mort à 60 ans environ, et il a commencé vraiment qu'en 1740, 1750, c'est en 1760 qu'il est mort. Mais lui a créé une dynastie, et ça a été différentes branches de chassidim. Et quelle est l'intuition principale du chassidisme au départ, comme ça? Arrêtons ces études desséchantes du Talmud, et revenons à l'expérience. Et donc, mettons au centre, non, mettons en tête la deuxième colonne. La prière et l'expérience. expérience chaleureuse, disons, du divin. Et l'étude s'ensuit et les œuvres de miséricorde s'ensuivent. Alors, en face de ça, il y a toute l'opposition orchestrée des maîtres de l'étude. Voilà. Le Gaon de Vilna, Vilna c'est en Lituanie, hein, le Gaon c'est le grand maître, il a carrément prononcé une malédiction sur ce mouvement. Il fallait oser. Il le connaissait à fond et maudit. Vous connaissez probablement tous le philosophe Emmanuel Levinas. Il est originaire de la Lituanie. Il vient de ces milieux opposés au chassidisme. Il ne sait à peu près rien de ce chassidisme et de la mystique de ce chassidisme et de la Kabbalah qu'il y a derrière. Ce n'est pas sa tasse de thé. Il sort de l'autre milieu. Donc deux milieux qui sont restés à distance l'un de l'autre. Mais il y a d'autres maîtres, Elie Wiesel par exemple, que vous connaissez sans doute aussi, prix Nobel. Elie Wiesel a dans son arbre généalogique des grands maîtres du Talmud et des chassidis. Et donc lui connaît le mouvement chassidique de l'intérieur. Et quand il écrit « Célébration chassidique », eh bien ce sont des maîtres dont il a entendu les récits, je dirais de père en fils, parce qu'il est du milieu. Mais en même temps, il est un studieux. Et il a continué jusqu'à aujourd'hui. Il étudie chez les grands maîtres aux États-Unis, il a étudié à Paris, chez de tout grands maîtres. Donc, ce sont deux tendances, mais l'enjeu est intéressant. Il y a maintenant un grand mouvement, le Chabad, qui lui est chassidique, mais qui valorise l'étude. Comme si de l'intérieur, le mouvement chassidique s'est rendu compte, si nous nions l'étude, nous faisons à nous-mêmes un tort. Et ils sont donc très chauds, très charismatiques, très emballés, très conquérants aussi pour les colonies d'Israël, ils sont sans gêne et sans scrupule, mais ce sont des studieux aussi. Simplement pour vous dire que ce n'est pas évident, même dans le milieu chrétien, donc il existe des gens très pieux, très charismatiques, très monastiques par exemple, c'est ma branche à moi, et qui ont un réflexe anti-intellectualiste par exemple. Alors, une peur de faire de l'exégèse, une peur d'étudier les Écritures, alors qu'en réalité, la tradition bénédictine par excellence est un milieu où on respire les Écritures, on les connaît par cœur, on les associe, on les étudie avec toutes les portes d'entrée possibles et imaginables. Avec confiance, pas avec peur, pas avec angoisse, pas avec contrainte. Mais donc, ça c'est un premier regard qui nous vient de la tradition juive. Maintenant, j'aimerais montrer combien c'est fondamental dans la tradition juive et même dans la tradition chrétienne. C'est qu'il s'agit en réalité de trois axes de la révélation qui correspondent d'ailleurs aux trois parties des Écritures et qui ont une typologie fondamentale de l'homme biblique. L'étude, c'est le premier. Ce sont les sages qui étudient la Torah et c'est tout l'axe sapientiel de la sagesse qu'il y a dans la Bible qui est honoré dans cette première Torah. En face de ça, il y a le prêtre. Et le prêtre, c'est celui qui excelle dans tout ce qui concerne le culte et la relation à Dieu, le temple, tout ce qui est les distinctions entre le pur et l'impur, le profane et le sacré, le comestible et l'immangeable, etc. Eux ont les règles pour structurer la vie. Ce sont les prêtres. Et le troisième, ce sont les prophètes. Et le prophète, dans la tradition juive, c'est d'abord celui qui a l'œil du pauvre, qui voit les choses que Dieu voit par rapport au pauvre. Alors ces trois milieux, disons, correspondent aux trois parties de la tradition juive, de la Bible, donc de ce qu'en hébreu on appelle la Tanakh, ce sont trois lettres, le T de Torah, qu'on appelle l'Ancien Testament en chrétien, que la Bible dit simplement, c'est la Torah. C'est les prêtres qui dominent la
Les cinq livres de Moïse sont pour 70% la tradition sacerdotale. Tandis que les prophètes, deuxième partie de la Bible, relèvent évidemment de la tradition prophétique, de la vision prophétique. Tandis que les écrits de sagesse, qu'on appelle plus simplement les écrits ou les hagiographes, c'est la troisième partie. Torah, Neviim, Ketuvim. Et donc l'Ancien Testament, dans la vision juive, est une triade déjà. Et dans cette triade, il y a les trois typologies. On peut dire la même chose pour Dieu. Dieu est, il y a une vision sacerdotale sur Dieu. Alors Dieu est au-dessus. C'est la vision transcendantale. Dieu souffra, super, au-dessus. Tandis que chez les sages, Dieu est immanent, Dieu est dans. Et pour les prophètes, Dieu est solidaire, Dieu est avec. Vous avez d'ailleurs ces trois prépositions pour Dieu. Dieu, notre Père, qui est au-dessus de tout, qui est dans tout et qui est avec tout, dans Éphésiens chapitre 4, la conclusion de cette espèce de confession qui se trouve en tête du chapitre 4 d'Éphésiens. Donc l'immanence, ça c'est la grandeur de la tradition sapientielle, c'est que Dieu est aussi à l'intérieur. Dans la subjectivité même, il y a Dieu. Tandis que le prêtre nous rappelle qu'il est saint, qu'il est au-dessus, qu'il est au-delà. Et que les prophètes nous disent non, il est avec, il est solidaire, Dieu avec nous, il est Emmanuel. Alors on peut privilégier, on a toujours le droit de privilégier une solution plutôt que l'autre. Probablement que tous, on est ainsi fait. Mais il faut toujours se souvenir des deux autres. C'est ce que les juifs appellent la rumination. Vous savez qu'un juif ne peut manger qu'un type d'animal. Cet animal doit avoir deux caractéristiques. C'est qu'il doit avoir le sabot fourché et il doit être ruminant. Alors, qu'est-ce que ça vient faire? En quoi est-ce que c'est important? Même les pères de l'Église ont déjà repéré l'importance de ça, mais c'est la tradition juive qui nous l'inculque à sa façon. Au niveau de la conduite du juif, ça doit être clair, comme le tracé, disons, d'un animal à la patte fourchue, au sabot fourchu. Donc, une conduite très claire. Nous sommes montés hier dans l'aéroport, il y avait un juif religieux, qui n'avait pas moyen de ne pas le voir, avec son chapeau, avec tout en noir, avec sa kippa, ses longs cheveux, sa barbe. J'étais assez impressionné de le voir comme ça. Au milieu de... Peut-être qu'il y avait 3000 personnes dans cet aéroport, tellement c'était chaotique à l'heure où nous entrons. Mais il se distingue dans sa conduite très concrète. Tandis qu'au niveau de sa réflexion, il doit ruminer tout. Il doit être un ruminant, et pas quelqu'un qui avale tout d'un coup. Le cheval et le cochon, ils avalent tout d'un coup. Non, non. Et donc seulement un animal qui rumine tout, même le contraire, même ce que pensent d'autres, mais au niveau de la conduite, c'est la halakha très précise. C'est très fondamental et assez beau. Ils ont des gens à l'esprit unifié dans la pratique et ouvert dans la réflexion. Ça, c'est Dieu, avec les trois caractéristiques. Prenons les relations et on va trouver... En fait, peut-être l'explication fondamentale pourquoi on ne sait pas réduire les trois relations et la grammaire de ça. Dans la vision sacerdotale, quelle est la relation fondamentale la plus importante? C'est la relation à Dieu. Tandis que pour le prophète, quelle est la relation décisive? C'est la relation à autrui. Et tout ce qui est, ce qu'on appelle avec Lévinas et les autres, l'éthique, ce qui relève de autrui. Tandis que le sage pense à soi,
la relation à soi et au monde. Et de là vient aussi cette importance d'un Dieu imminent à la conscience. Vous connaissez tous la petite phrase remarquable de saint Augustin, « Deus interior intimo meo », plus intérieur que ma propre intimité. C'est par la voie de l'intériorité, de l'immanence que je découvre un sujet, une subjectivité qui porte ma subjectivité. Je ne suis pas capable de me donner à moi-même l'origine de ma subjectivité. Si je m'interroge, il y a un Dieu plus intérieur que ma subjectivité. Ça, c'est la voie des sages. Ça, c'est la voie, disons, d'un Dieu qui est dans la conscience de soi. Et c'est par la conscience de soi qu'on rejoint Dieu. Donc, ce sont les trois relations à moi, à Dieu et à autrui. Au niveau grammatical, c'est la première personne, le « je ». C'est la troisième personne, le « il ». C'est la deuxième personne, le « toi ». Et grammaticalement, dans toutes les langues que je connaisse, j'en connais un petit paquet, je n'en connais aucune où il n'y a pas trois personnes. On ne s'est pas réduit, on ne s'est pas éliminé, on ne s'est pas en ajouté. On a trois possibilités pour parler, pour se situer, pour se rapporter. Première personne, deuxième personne, troisième personne. Dans la mystique juive, on nous apprendra que Dieu peut être « je », peut être « il » et peut être « tu ». Donc, dans ma subjectivité, je peux entendre Dieu. En lui-même, il reste qui il est, un « il » que je dois respecter, que je ne sais pas réduire, que je ne sais pas mettre dans ma poche. Et tout vis-à-vis, mon enfant, ma femme, mon ennemi, est une possibilité pour Dieu pour se révéler. Ça, c'est maintenant presque à l'abstrait, si vous voulez, au concret. Les Juifs sont des grands maîtres pédagogiques. Ils disent, mais quand on était dans le désert, on était là, et il y avait les trois. Il y avait Aaron, le prêtre. Et son symbole, c'est la nuée. Dieu au-dessus. Et cette nuée commandait la marche. Personne ne pouvait mettre la nuée dans sa poche. Personne ne pouvait dire, nous allons demain matin partir. Non, non, il fallait regarder la nuée. Et si la nuée restait, on restait. Si la nuée partait, on partait. La grandeur de cette vision, on attend. On est sous la nuée. Il y a un guide, ce n'est pas nous qui allons mettre le monde dans notre poche et mettre Dieu. Ça, c'est le prêtre. Pendant que nous étions dans le désert, nous avions aussi le prophète, qui était prophète à côté d'Aaron. Moïse. Moïse était prophète et son symbole, qui nous accompagnait jour après jour, c'était la manne. La manne. La manne, c'est miraculeux. Pourquoi est-ce que c'est miraculeux? Pas parce que ça surgit là tous les matins comme une rosée croustillante, délicieuse. Le miel n'est que 1/60 du goût de la manne, d'après les rabbins. La manne était exceptionnelle parce que chacun prenait une mesure. Et tout le monde avait assez. Si demain je me donne à tous la même mesure, il y en a un qui va dire j'ai trop, et un autre qui va dire j'ai pas assez. Donnez à chacun selon sa mesure. Ça, c'est le prophète. Qui écoute les besoins d'un chacun. Dans la règle de Saint-Benoît, on ne donne pas à tout le monde la même chose, mais on écoute les besoins et on donne aux besoins de chacun. Quel est l'ordre social qui réussit cela? Pas la même chose, pas la même quantité. J'étais maître de novice. Bon, je dois écouter mes novices. Si moi je suis très sportif, je veux que tous mes novices fassent du sport. Non, ça ne dit rien du tout. Si je n'aime pas la musique et que mon novice est un passionné de musique, ah non, tu n'as pas besoin de musique, moi je n'ai pas besoin d'un très fort. Je suis un très mauvais maître de novice. C'est-à-dire un bon maître de novice, ni mais le sport, ça vous dit quelque chose?
Ah oui, j'ai absolument besoin. Ben, bon, ici, voilà une bécane spéciale, tu peux courir et ça te fera du bien. Défoule-toi. Bon. Et un autre, c'est la musique. Eh bien, je tiens compte des besoins. Alors quelqu'un dit, est-ce que je peux avoir un CD? Pourquoi? Ben, parce que l'autre l'a reçu. Est-ce que tu en as besoin? Non, mais l'autre l'a reçu. Ce sont les petits jeux qui existent dans les communautés. Est-ce que c'est un vrai besoin ou est-ce que c'est simplement une jalousie? Il faut donner selon les besoins, pas selon les jalousies. Dit simplement. Sinon, ça sert à rien. Donner à chacun selon ses besoins. Et tenir compte de ça, tenir compte du pauvre, finalement. Saint Benoît dit, toi aussi, tu es un pauvre, donc tu dois demander. Oh, moi, j'ai rien besoin. Ça n'est pas vrai. Donc tu dois rejoindre ta propre pauvreté de temps en temps et oser demander. Comment veux-tu que je comprenne la pauvreté des autres si je n'ai jamais découvert la mienne, qui est là aussi? Si je la rebiffe partout, je vais la rebiffer aussi chez les autres. Donc l'axe éthique de la pauvreté est assez subtil, mais c'est donc l'axe de autrui. Reste la troisième personne, donc on a Aaron, on a Moïse. Qui est-ce qui accompagnait en troisième lieu et qui ne manquait jamais? Troisième personne? Personne, comme Moïse, en chair et en os, Aaron. C'est la même famille, ils sont deux frères. Il y avait encore une troisième dans cette famille, qui d'ailleurs était à côté de Moïse au moment de la naissance, qui a veillé sur le bébé. La sœur de Moïse, qui s'appelle? La sœur de Moïse. Myriam, ça vous dit rien? Myriam qui danse sur le tambourin dans la nuit pascale et qui dit « Chantons le Seigneur car il a fait de... » Exode 15, Myriam, la sœur. Au moment où elle va devenir lépreuse, hein, parce qu'elle est jalouse de son frère. Mais donc Myriam est la troisième, et son symbole, elle est la sagesse. Et son symbole, c'est le rocher avec l'eau. Et partout où on avait, il y avait toujours de l'eau. L'eau de la sagesse qui sort du rocher. Qui sort de l'intérieur, qui est immanent. L'eau que je vous donnerai deviendra en vie, source jaillissant en vie éternelle. Voilà, petite histoire. Et les rabbins sont malins, ils disent, regardez bien, la preuve que quand Myriam meurt dans les nombres, le premier verset qui s'ajoute, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Quand Aaron meurt, il n'y a plus de nuée. Allez voir, il n'y en a plus. Quand Moïse meurt sur le mont Nebo, c'est fini là-bas. On entre en terre promise et on mange le grain de la terre promise. Donc, la preuve est faite. Myriam, c'est l'eau. Aaron, c'est la nuée. Moïse, c'est la main. C'est pour des petits-enfants, si vous voulez. Une catéchèse. Mais elle est profonde. Elle est structurée et elle révèle que les trois visions sont là. Accompagnent le peuple, traversent les temps. On suit, ça va? C'est un peu de gymnastique rabbinique. Mais... vous allez dire, sont là maintenant devenir pas seulement des disciples de John Mayne, mais même des rabbins. Pourquoi pas? Mais de toute façon, c'est peut-être un bien pour se retrouver soi-même dans sa propre tradition un peu plus clairement. Venons aux chrétiens. Le mouvement chrétien se lance au premier siècle de notre ère. Les premiers écrits sortent, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette triade est également omniprésente. Dans le livre « Les trois colonnes du monde », je donne quatre exemples dans la tradition du Nouveau Testament seulement. Et l'évangile de ce matin... disons, quand on l'écoute bien, a exactement les trois mêmes repères pour la nouvelle communauté dans le nouveau sanctuaire. Mais un des beaux textes clés que Luc nous a conservés, c'est la charte, je dirais, de base, la règle de vie des premiers chrétiens à Jérusalem. C'est à la fin du chapitre 2, verset 42. Et la chose remarquable, c'est qu'il y a quatre principes, et pas seulement trois. Toujours un peu désarçonnant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais allez, écoutez bien, on retrouve les trois, et un quatrième qui est la synthèse des trois autres. Quels sont les trois principes de la communauté? Ils étaient assidus, dit le texte, un, à la doctrine ou à l'enseignement des apôtres. Et c'est le moment d'étude, d'intelligence, de compréhension, la didache, l'enseignement des apôtres. Et curieux, c'est donc un parallèle avec cette étude de la Torah. Le premier moment, c'est que l'identité vient d'une doctrine, d'un enseignement qu'on a reçu, qu'on accueille, qu'on écoute, qu'on laisse entrer, qui nous oriente, nous justifie, nous éclaire. Deuxièmement, ils étaient fidèles et assidus à la mise en commun des biens. En hébreu, en grec, c'est koinonia. Koinonia est un terme technique où on met tout en commun comme font les amis. Et pour Saint-Luc, c'est très important, la première communauté chrétienne était une communauté d'amis. Or, depuis des siècles, dans la littérature grecque, la qualité des amis, c'est qu'ils partagent, qu'ils mettent tout en commun. Tois philois ta panta koina. Aux amis, tout est commun. Une maxime pythagoricienne que Platon cite et que tout le monde connaît. Aristote commente largement dans son éthique à Nicomaque. Il a deux chapitres sur l'amitié, c'est pas rien. Et c'est une des toutes grandes valeurs de la tradition grecque qui est passée très vite, notamment grâce à Luc, dans le mouvement chrétien. Il va être, disons, très présent chez saint Basile, saint Pacôme, saint Augustin. Tout l'Occident sera marqué par la philosophie de l'amitié grâce à saint Augustin et à sa règle, qui est une règle des amis. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté chrétienne exemplaire pour Martin Augustin? C'est des amis qui sont ensemble amoureux de la sagesse qui est au milieu d'eux. Et cette sagesse, c'est le Christ, qui est aussi la beauté. Donc, philosophia et philokalia, amoureux de la sagesse, qui est être amoureux de la beauté. Donc, la communauté idéale pour saint Augustin, c'est un cercle d'amis qui entoure au centre le Christ. Sagesse et beauté de Dieu. Tout à fait remarquable. C'est la dernière phrase de la règle de saint Augustin qui n'a que 8 petits chapitres. Donc très très bref, mais qui a normé tout, également la règle de saint Benoît. Et donc, la koinonia, la mise en commun des biens, est fondamentale. C'est la manne, c'est la même idée que la manne. D'ailleurs, on verra dans le chapitre 4, on donnait à chacun selon ses besoins. C'est exactement la définition de ce que c'est que la distribution de la manne. Chacun selon ses besoins. Pas à chacun la même chose. Le troisième principe, c'est la fraction du pain. C'est curieux, c'est une formule plus symbolique et concrète. Ce n'est pas simplement manger tous les jours avec quelqu'un qui préside et qui fait la fraction. Parce qu'on mange toujours comme ça en milieu juif, on ne mange pas autrement. Encore aujourd'hui, quand on est à table, le père de famille, en silence, met un peu de sel sur le pain, le rompt et donne à chacun. En silence. Et on le mange en silence. Donc, ça c'est la fraction du pain quotidien. Mais ici, ils étaient fidèles à la fraction du pain, c'est entre guillemets, c'est une parole codée que le milieu comprend et que les gens qui ne sont pas du milieu ne comprennent pas. Ils peuvent croire que c'est banalement un repas comme tous les autres, et en réalité, c'est le repas qui remémore le dernier repas de Jésus, où, de fait, il a pris du pain, il a fait la fraction, et il s'est signifié à travers ce geste. C'est à ce genre, ce geste signifiant que l'on communie chaque fois qu'on se réunit.
Et troisièmement, la prière.
Une chose surprenante, c'est que l'ordre a été changé et que notamment la mise en commun des biens, donc la dimension prophétique, est plus importante dans le milieu chrétien que la dimension culturelle. Ça provient sans doute de ce que les chrétiens étaient plus près des Esséniens que des Sadducéens. Ils étaient, comme Jésus, proches des pharisiens. Les pharisiens, ce sont les sages. C'est comme ça qu'ils se désignaient eux-mêmes. Eux n'ont jamais à supporter de se désigner comme pharisiens, qui voudraient dire quelque chose comme séparatiste, hein, puriste. Hein. Mais non, eux se disent hachamim, c'est-à-dire les sages. Les Sadducéens sont des prêtres, c'est une caste, tandis que la dimension prophétique est vécue notamment dans les communautés de Qumran et les Esséniens, qui se disaient une communauté de pauvres et de solidaires. Et donc on voit ici que cette triade existe également dans le mouvement chrétien. Je termine ce genre de exposé pour montrer que jusque dans la règle de Saint-Benoît, je suis bénédictin, je m'appelle Benoît, on est chez les bénédictins, je peux exagérer un peu dans ma propre tradition, mais pour montrer que malgré tout, ça se répercute jusque dans la vie du moine de tous les jours. La première chose que Saint-Benoît inculque à ses moines, c'est d'être un sage grâce à sa lectio divina. Nous allons voir cet après-midi tout ce que ce mot recouvre, mais donc c'est une expression technique qui existait déjà depuis des siècles en grec et en latin, et qui est la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement une pieuse lecture spirituelle, mais c'est la lecture de la parole de Dieu. Et notre moine commence et reçoit de Saint-Benoît dans sa règle 3 heures, 2 heures et demie, selon les saisons. Libérer uniquement à cela, lire et mémoriser et enregistrer la parole de Dieu. Et au début du carême, il reçoit un livre en entier, il est supposé le lire, je dirais, de la couverture à la couverture. Une expression qu'on envoie en flamand, en kaft en kaft, de la couverture à la couverture. J'ai eu des missionnaires comme ça, j'avais rédigé une petite revue, et ils me répondaient en disant « Oh, ta revue, c'est formidable, je la lis chaque fois ». Parce qu'on n'a presque rien ici dans le désert où je suis. Je lis de la couverture à la couverture. C'est une belle définition, une belle consolation pour un éditeur de revue. Donc, mais Saint-Benoît demande, et nous savons très bien que nous lisons comme ça, sélectivement, et de temps en temps, une page, et puis combien de livres est-ce que nous avons lu du début jusqu'à la fin. J'ai fait des enquêtes chez les moines, les jeunes moines, novices. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lisais? Qu'est-ce que tu as lu avant d'entrer au monastère? Nombreux sont ceux qui, avant d'entrer au monastère, n'ont jamais lu un livre du début jusqu'à la fin. Remarquable comme statistique aujourd'hui. Et c'est le monastère qui leur a appris à lire à travers l'oreille. Au réfectoire, on lit des livres, des biographies, et ils veulent lire et ils relisent. À l'office, ça dépend des monastères, on lit certains livres d'un bout à l'autre. Livres spirituels, de Don Louf, par exemple. Et après, on peut relire, et c'est la première fois que j'ai lu un livre du début jusqu'à la fin. Donc, ça nous met en garde. Hein. On n'est pas une exception si on ne fait que... Mais voilà, la lectio divina, pour Saint-Benoît, c'est important. Ça va jusqu'à 2 ou 3 heures par jour. Dans beaucoup de monastères, on essaye d'avoir 1 heure. Dans certains monastères, il n'y a pas d'heure, et quand il n'y a pas d'heure prescrite, il n'y a rien. C'est comme pour votre méditation. Si ce n'est pas clair dans votre oreille, il n'y aura rien. Ne soyez pas surpris. Je suis plein de bonne volonté, mais mon agenda ne le permet pas. Ben, je regrette. Si tu ne fais pas une tranche, ça peut être 1 heure plus tôt que tous les autres, je n'en sais rien. Mais si tu ne fais pas une tranche, il n'y aura rien. La deuxième chose importante chez Saint-Benoît, c'est ce qu'on appelle le opus. Opus Dei, à ne pas confondre avec ce que vous croyez, sans préjugé, ou avec un petit préjugé peut-être. Bien, pas bien, pas bien. Alors, Opus Dei, c'est la prière, et c'est la prière liturgique d'abord. Et il dit explicitement ne rien préférer à l'Opus Dei. C'est intéressant, c'est déjà un petit glissement par rapport à la tradition. La tradition disait du moine ne rien préférer à la prière. Et Saint-Benoît a changé le orationi, il a mis operi Dei, au datif. L'office liturgique pour lui est capital. La sonnette cloche, la sonnette cloche, oui. La cloche sonne. Et donc, on arrête. On arrête même la phrase que tu es en train d'écrire, on arrête même la lettre qu'on est en train de former. Il y a de très beaux exemples dans les quartiers monastiques du désert. Donc, Opus Dei, grande priorité monastique. D'ailleurs, Saint-Benoît, il avait reçu un document assez touffu et riche du maître, le maître. Il a retravaillé ça, la première chose qu'il a faite, il a déplacé tout ce qui concerne la liturgie et l'a mis en tête. Pour moi, c'est une priorité. Bon. Et la dernière chose, c'est le service. Servir. Les frères se serviront mutuellement, serviront les autres, serviront l'étranger, serviront le pauvre. C'est tout ce qui est la relation à autrui. Avec un goût affiné de tout ce qui est pauvre, petit, vieux, malade. Et c'est le chapitre Matthieu 25 qui est omniprésent dans la lettre. Matthieu 25, j'étais malade et tu m'as visité. J'étais en prison, j'étais étranger et tu m'as accueilli. C'est le grand critère avec la catégorie servir ou encore, ça veut dire, on appelle ça la humanitas. L'humanité de la règle de Saint-Benoît, c'est-à-dire l'hospitalité. Le moine accueille, le moine, et notamment les pauvres, et notamment ceux qui sont membres du mouvement chrétien. Et voilà les trois grands axes qu'on retrouve. Ce sont trois grandes priorités. Alors il y a quelque chose de psychologique, difficile, comment est-ce que tu peux vivre trois priorités? L'étude, la prière, le service. C'est Saint Vincent de Paul qui peut nous donner la solution quand il nous dit, comme il dit à une petite sœur de sa congrégation, hein, ce ne sont pas les sœurs d'ailleurs, hein, il dit, quand tu es à l'office et que quelqu'un t'appelle à la porterie, tu ne fais rien d'autre que quitter Dieu pour Dieu. Donc, les trois priorités sont en balance, mais chaque fois tu as affaire à Dieu. Et si tu changes, ou si tu interromps l'un pour l'autre, tu ne fais que quitter Dieu pour Dieu. Qui est aussi une vieille expression du maître Eckhart. Quitter Dieu pour Dieu. Saint-Benoît a en fait une quatrième petite maxime qui revient 3-4 fois dans sa règle, ne rien préférer à l'amour du Christ. Cet amour du Christ est dans la lectio, est dans l'Opus Dei, est dans le service. Il y a comme, au fond du moine, une force élective, hein, de rien préférer à. Il emploie ça pour l'Opus Dei, il emploie ça pour servir, il emploie ça pour la lectio divine, il emploie ça surtout pour l'amour du Christ. Il n'a rien préféré à l'amour du Christ. Et voilà. Le but de ce que j'ai essayé d'esquisser pour vous ce matin, c'est un grand cadre. Un cadre interprétatif de tout ce qui, en fait, nous meut quand nous voulons vivre avec Dieu. Honnêtement, et sobrement, et lucidement. J'oubliais, disons, le repère de l'évangile de ce matin, parce que c'est assez amusant, c'est que quand on écoute bien, on le retrouve partout. Donc il y avait le temple que Jésus a critiqué. Hein, ma maison est une maison de prière pour tous les peuples, mais vous avez fait un repère de brigands. Et après, Pierre interroge Jésus, et il va donner les trois clés importantes pour être un temple de Dieu comme mouvement chrétien. La première, c'est la foi. Ayez foi en Dieu. La deuxième, c'est la prière. Demandez et vous recevrez. Et la troisième, c'est le pardon. La relation à autrui et le pardon. trois sont vécus, comme dans le temple, en face de Dieu. La foi, c'est l'intelligence des choses. La prière et la confiance et la demande, c'est le deuxième axe du culte. Et le pardon, c'est la qualité par excellence du bon rapport les uns avec les autres. C'est le don parfait. Et donc, même dans ce tout petit texte, qui est un collage de citations, de paroles de Jésus, on a essayé de rassembler les trois dimensions de l'existence chrétienne dans ce lieu nouveau, qui n'est pas attaché à un lieu géographique, culturel, mais qui se célèbre partout. La communauté aura besoin toujours de foi, de prière et de pardon. Donc, voilà un peu le cadre dans lequel aussi les questions d'hier soir peuvent déjà trouver, disons, pas une réponse, mais un cadre. Beaucoup de questions, en fait, changent de nature quand j'ai un horizon. Et souvent, dans un débat public comme ça, quand une question est très, très, comme ça, pointue, essayons de la resituer dans un cadre plus large, elle est comme désamorcée. Mais elle retrouve alors un horizon pacifique où elle peut vivre, comme un poisson dans l'eau, et elle peut lentement aussi grandir et mûrir et finalement trouver sa place dans ma vie, même quand elle n'est pas résolue. Vivre avec des questions non résolues, ça fait partie de l'expérience humaine, de l'éducation, de la vie sous le soleil. Mais savoir les situer dans un horizon de sens, ça crée une force de portée, disons. Je sais porter l'existence, même si je la comprends. Un jour, quelqu'un me demandait, comme ça, dans une interview, est-ce que la vie a du sens ? La vie, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle ait du sens. Je peux lui donner du sens. Mais tout ce que je vois, il y a du sens et du non-sens l'un dans l'autre. Et dire la vie a du sens, a priori. A posteriori, je fais un chemin, je lui donne du sens. Donc, avançons. Mais ici, les rabbins et la tradition chrétienne et la tradition monastique, trois fois, donc, me donnent un cadre dans lequel j'arrive à respirer. Et tout là sera de bien respirer, de respirer Dieu, ou encore de respirer le Christ. C'est ce que saint Antoine dit. Il a été 20 ans dans une tour, enfermé, et il en sort tout jovial, tout souriant, et fait son premier discours dans la vie de Saint-Antoine. Qu'est-ce qu'il dit ? Respirate Christo. C'est tout ce qu'il a appris dans sa solitude. Respirer le Christ. J'espère qu'à la fin de ce week-end, cette petite expression qui n'a que deux mots, respirate Christo. C'est quand vous méditez, parce que méditer, c'est de l'ordre de la respiration. Le moment que vous réalisez que vous respirez, vous êtes sûr d'être en silence. Et si vous n'arrivez pas à réaliser votre respiration, vous n'êtes pas encore en silence. Alors là, la fine fleur de votre respiration, c'est que vous ne respirez pas seulement comme une pompe, qui est déjà une pompe merveilleuse, parce que ça vient et ça part, et vous ne contrôlez pas ça. Vous pouvez contrôler l'inspiration et puis vous expirez. Mais à la fin de l'expiration, vous respirez de nouveau et ça vient tout seul. Et elle a une touche, une secousse. Et cette secousse, vous ne la produisez pas. Elle vous est donnée. Alors, respirez le Christ. Clac, dans ce trou de passage de l'expiration à l'inspiration. Les grands maîtres en Orient nous disent d'ailleurs, l'expiration est beaucoup plus importante que l'inspiration. Quand on vous dit, vous devez faire attention à votre respiration, qu'est-ce que vous faites ? Vous gonflez vos poumons parce qu'à ce moment-là, ça y est, je sais que je respire. Que fait l'oriental ? Et le dernier moment, c'est quand il compresse les abdominaux contre sa colonne vertébrale. Et ça ne se fait pas naturellement. Il faut envoyer ses muscles. Et dès que vous faites faites ça, votre colonne est parfaite. Elle se met en place. Quand vous expirez contre la colonne vertébrale, elle est bien droite. Souple, mais pas comme une chandelle, comme un claque, comme un parapluie. Il y en a qui ont avalé leur parapluie. Il faut que la colonne vertébrale soit un S souple. Et ça vient de l'expiration avec les abdominaux pour contracter. Et puis ça se regonfle de soi-même. Comme une pipette, disait un grand maître au Japon. Une pipette que je enfonce en bas et elle revient. Mais ce « et elle revient », ça se fait tout seul. Et cette secousse, réaliser cette secousse, ça c'est vrai. Parce que là, il y a le don. En vivre, c'est réaliser le don. Et quand vous faites des méditations, c'est surtout cela. Donc, respirate Christo. Voilà, vous terminez ce matin. Mais dans un autre